République, Philippe Meyer. Bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle émission thématique au cours de laquelle nous nous intéresserons à la question de la liberté et de la sécurité à l'heure du numérique et pour laquelle nous recevons Isabelle Falque-Pierrotin, qui est la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Isabelle Falque-Pierrotin, bonjour.
Bonjour.
Nous allons vous interroger sur le sujet que je viens d'indiquer, nous, c'est-à-dire Sylvie Kaufmann, directrice éditoriale au journal Le Monde, Marc-Olivier Padis, directeur des publications de la Fondation Terra Nova, et Michaela Wiegel, correspondante à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Isabelle Falque-Pierrotin, vous êtes diplômée de l'École des hautes études commerciales, vous êtes ancienne élève de l'École nationale d'administration et de l'Institut multimédia. C'est l'abondance de vos diplômes qui fait que je mets un S à ancienne et à élève. Vous êtes présidente de la Commission nationale, je l'ai dit, de l'informatique et des libertés. Vous l'êtes depuis 2011. Et en 2014, vous avez été élue pour 2 ans présidente du groupe des commissions nationales informatiques et liberté européenne, le G29. Vous avez été réélu à la tête de cette fédération en 2016 pour 2 nouvelles années et vous êtes parallèlement membre du Conseil d'État, conseillère d'État depuis novembre 2001. Avec vous, donc, nous allons nous intéresser à la liberté et à la sécurité des données à l'heure de la modernisation de la société. La CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, a été créée en France le 6 janvier 1978 par la loi Informatique et Liberté qui visait à réglementer la liberté de traitement des données personnelles. La création de la commission comme autorité administrative indépendante est intervenue 4 ans après le scandale de l'affaire Safari, système automatisé pour les fichiers administratifs et le répertoire des individus, un projet gouvernemental d'interconnexion des fichiers nominatifs de l'administration française. La CNIL française et les CNIL européennes, rassemblées donc sous le groupe du G29, entendent préserver les données personnelles des utilisateurs tout en accompagnant l'innovation technologique dans le tournant de la révolution numérique. 3 textes élaborés dans le courant de l'année 2016 témoignent de la nécessité de contrôler ces avancées technologiques qui portent en elles le péril d'une régression des libertés individuelles. La loi pour une république numérique reconnaissant aux personnes un droit, je cite, à l'autodétermination informationnelle, le Privacy Shield, un accord signé entre l'Europe et les États-Unis qui s'intéresse à la protection des données dans les accords commerciaux, et enfin le règlement européen sur la protection des données qui entrera en vigueur le 24 mai 2018 et permettra à l'Europe de retrouver sa souveraineté numérique face aux acteurs mondiaux. À l'heure de la commercialisation des données, des réseaux sociaux, des big data et des clouds, des algorithmes et de l'omnipotence des géants américains du net, la question de la sécurisation des données et de la transparence des activités est primordiale. Ces questions représentent les nouveaux enjeux démocratiques propres à une société numérisée et vous plaidez pour une transparence des algorithmes qui s'immiscent dans le quotidien de chacun, allant de la publicité à l'éducation avec l'algorithme APB, admission post-bac, de la médecine prédictive à la justice avec les analyses des actes de récidive. Alors que la sécurité et la liberté numérique peuvent être considérées comme de nouveaux enjeux démocratiques, de nombreux pouvoirs emploient ces arguments à des fins politiques répressives et régressives. Les autorités turques ont de nombreuses fois bloqué l'accès à certains réseaux tels que Facebook ou Twitter ces dernières années, jusqu'à plus récemment le site Wikipédia. Le président américain Donald Trump a, quant à lui, signé en janvier 2017 un décret qui exclut les non-américains des programmes de protection de la vie privée, sous le prétexte de renforcer la sécurité intérieure des États-Unis. La question de la sécurité numérique est également primordiale lorsqu'elle pèse sur les démocraties, alors que de nombreuses cyberattaques russes sont intervenues pendant les dernières élections américaines et sans doute aussi françaises, voire états-uniennes. Enfin, la question de la liberté d'expression à l'heure du numérique fait polémique, alors que de nombreuses voix revendiquent une totale liberté d'expression sur Internet, la censure de certains contenus, en particulier des contenus djihadistes et pédopornographiques, garantit pourtant seule la sécurité des internautes. Le récent phénomène des fake news et la prolifération des discours de haine sur Internet posent aujourd'hui également la question de la limite de la liberté d'expression et de sa diffusion de masse. Isabelle Falque-Pierrotin, selon l'usage, je vais terminer cette introduction par une batterie de questions, parmi lesquelles vous pourrez choisir celle avec laquelle vous souhaitez commencer notre conversation, et même en choisir une à laquelle je n'ai pas pensé, mais qui vous paraît primordiale. Comment peut-on rendre les mécanismes des algorithmes transparents et intelligibles pour le grand public ? Dans un contexte de prolifération des discours de haine sur Internet, doit-il y avoir davantage de contrôle des contenus et de limites à la liberté d'expression ? En période d'élection comme celle que nous venons de connaître il y a quelques semaines, comment lutter contre la diffusion des fake news et peut-on envisager une collaboration avec les géants du net ? Enfin, jusqu'où peut aller le stockage des données personnelles et à quelles fins peuvent-elles être utilisées ? Et puis, peut-être, pour commencer, mais vous le choisirez comme je l'ai dit tout à l'heure, pensez-vous que les enjeux dont votre commission et les autres commissions européennes ont à traiter sont suffisamment présents dans la conscience des responsables politiques et dans l'opinion publique ? Isabelle Falque-Pierrotin, choisissez.
Choisissez face à une batterie de questions et une description initiale qui est absolument terrifiante, quelque part, lorsque l'on vous écoute, parce que je dirais, en vous écoutant, on se dit, mais finalement, la CNIL, comme les autres autorités de protection des données, que peuvent-elles faire par rapport à cette invasion du numérique et par rapport au fait que le numérique, effectivement, est au cœur de l'innovation, est au cœur de la dynamique de nos sociétés contemporaines, mais en même temps est porteur de tous les dangers que vous avez cités. Alors, je reviens juste sur un point d'historique. Effectivement, l'origine de la CNIL, c'est la lutte. Enfin, c'est la dénonciation de l'affaire Safari, c'est-à-dire la peur par rapport aux grands fichiers publics. Et par rapport à ces grands fichiers publics, on a mis en place en France une autorité administrative indépendante pour protéger le citoyen par rapport à ces grands fichiers publics. Et au fur et à mesure que le temps a passé, je dirais le métier de la CNIL a évolué pour devenir, un régulateur de la donnée. On est passé, dans le fond, des fichiers aux données. Et par rapport aux données, et surtout par rapport à l'utilisation intensive des données par les acteurs publics, mais aussi par les acteurs privés, évidemment, le rôle de ce régulateur est d'accompagner et de proposer des solutions pour ne pas freiner les énergies, mais en même temps fixer un certain nombre de balises. Alors, est-ce que l'on peut véritablement fixer des balises ? La CNIL toute seule ? Sûrement pas. Sûrement pas. C'est pour ça que toute l'évolution de la législation a été, je dirais, de responsabiliser de plus en plus les utilisateurs de données pour faire en sorte que ceux-ci intègrent dans leur fonctionnement à eux un certain nombre d'outils qui assurent une protection des libertés et une protection des données personnelles. Vous avez par exemple une nouvelle personne au sein des entreprises qui est le délégué à la protection des données, qui est chargé, dans le fond, d'assurer une gouvernance interne des données qui permet à l'entreprise de respecter la législation. Et puis aussi, comment est-ce que ces autorités peuvent être effectivement efficaces sur les fake news, enfin sur toute une série de sujets que vous avez montrés, c'est de travailler ensemble. Et ça aussi, c'est nouveau par rapport à il y a 15 ans. Il y a 15 ans, les autorités nationales étaient principalement dirigées vers leur propre marché domestique. Aujourd'hui, je dirais que l'activité de la CNIL, elle est quand même largement orientée vers les autres autorités européennes pour dialoguer, construire de la jurisprudence commune, prendre des décisions communes. Et le règlement européen qui sera donc applicable à partir de 2018, il consolide cette approche commune concertée européenne en permettant aux autorités européennes de co-décider ensemble. Bref, tous ces éléments, que ce soit de nouveaux outils déployés au sein des institutions publiques ou privées, que ce soit des nouveaux modes de coopération entre autorités nationales, ces nouveaux outils permettent, je dirais, de faire en sorte que cet univers numérique qui apporte quand même énormément de choses aux uns et aux autres, se développe, mais effectivement en cantonnant les risques en matière de liberté individuelle. Alors après, il faut répondre plus précisément aux questions que vous avez posées, mais en tout cas, la philosophie générale, c'est celle-ci.
Vous venez de parler de responsabiliser les acteurs, responsabiliser moralement, responsabiliser pénalement aussi ?
Ah non, je dirais responsabiliser moralement, bien sûr, mais ça, c'est un sujet personnel. Non, en revanche, il est important que les entreprises puisse maintenant faire la preuve, à travers un certain nombre d'outils qui leur sont imposés, qu'elles respectent effectivement les principes informatiques et liberté, et elles ont, je dirais, une arme, enfin pas une arme, mais en tout cas une menace considérable, puisque à travers la nouvelle législation européenne, le niveau de sanction est considérablement aggravé, puisque maintenant c'est un niveau de sanction qui peut atteindre 4% du chiffre d'affaires mondial. Donc ce sont des niveaux de sanction inspirés du droit de la concurrence, et le message politique qui est derrière ce texte consiste à dire: on est entré dans une nouvelle phase, il faut désormais prendre la question des données au sérieux. Les données ont acquis dans les années récentes une valeur économique concurrentielle considérable, et c'est très bien comme ça. En revanche, derrière les données, il y a des individus qui ont des droits, vous devez respecter ces droits, et pour le faire, nous vous imposons, entre guillemets, un niveau de sanction qui est un niveau de sanction très dissuasif.
Michaela Wiegel.
Oui, alors merci d'avoir rappelé qu'à l'origine de votre commission, il y avait ce réveil citoyen en France et cette peur face à la volonté de l'État d'avoir accès à tous les fichiers. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui, cette conscience citoyenne s'est beaucoup assoupie et puisse aussi contraindre ce que vous avez appelé la responsabilisation des citoyens, des entreprises? Est-ce que aussi, j'ai trouvé une citation de vous, vous avez dit « Nous sommes tous nus devant les géants de l'Internet ». C'est-à-dire, est-ce que cette nudité, est-ce qu'elle n'est pas un fait réel que toutes nos données personnelles sont de toute façon enregistrées pour des intérêts commerciaux et que même cette formidable accord européen n'y changera pas grand-chose?
Isabelle Falque-Pirotin.
Alors, je crois que nous sommes tous ambivalents par rapport à cette question des données personnelles, parce que nous profitons tous les uns les autres des services de la société numérique qui sont construits à partir de ces données personnelles. Donc aucun d'entre nous, je le pense, à part, je dirais, quelques irréductibles, n'a envie véritablement de renoncer aux bénéfices de cette société numérique. Mais en même temps, toutes les études le montrent, les individus sont de plus en plus conscients que ces services sont construits à partir de leurs données et ils revendiquent non pas d'arrêter de donner leurs données, mais d'avoir une maîtrise sur ces données. Je dirais que ça, c'est très clair, ça s'exprime très clairement dans les différentes études. Donc je crois qu'il n'y a pas véritablement une passivité, il y a une volonté finalement de revenir d'une certaine manière à l'origine des données. Les données personnelles, elles sont protégées non pas parce que c'est un actif patrimonial de chacun d'entre nous, ça c'est un peu l'approche américaine, mais parce que dans le fond, lorsque vous traitez de données, lorsque vous donnez vos données, vous n'engagez pas que vous-même. Vos données parlent de vous, mais parlent aussi des autres. Et plus généralement, ils parlent, je dirais, d'une certaine manière, de la dignité humaine. C'est ça qui a justifié tout, je dirais, le montage juridique qui a été adopté en Europe. Donc aujourd'hui, on revient à travers ce principe d'autodétermination informationnelle qui a été adopté dans la loi République numérique française récente, on revient à cette approche de dire, finalement, on ne veut pas donner un chèque en blanc aux grands acteurs de l'Internet. On veut bien, on accepte qu'ils utilisent nos données pour nous fournir des services qui nous sont extrêmement utiles, mais pour autant, nous voulons faire les choix nous-mêmes. C'est-à-dire que, par exemple, s'il y a une combinaison massive de données nous concernant, eh bien, nous voulons paramétrer cette combinaison selon un certain nombre de critères qui sont les nôtres. Et peut-être que ces critères ne seront pas les mêmes entre vous et moi. Donc ça, je crois que c'est une aspiration profonde, effectivement, de nos concitoyens. Et j'en veux un autre exemple. Regardez le droit à l'oubli. Ce droit à l'oubli qu'on a beaucoup critiqué, je dirais, en dehors de l'Europe, et qui donne la possibilité aux personnes de demander le déréférencement d'un certain nombre de contenus les concernant. C'est incroyable comme ce droit à l'oubli s'est répandu aussi rapidement à travers toute l'Europe, en Allemagne, en France, et je crois que c'est un signe assez intéressant de la volonté des personnes, finalement, d'être au centre du numérique et de dire, finalement, cette société numérique, nous voulons la modeler selon nos propres choix et pas selon uniquement la logique économique des grands acteurs de l'Internet.
Marc-Olivier Padis.
Oui, vous avez très bien expliqué comment votre institution a un double rôle finalement de protection des particuliers par rapport aux données publiques que la puissance publique détient. Et en même temps, un rôle de dynamisation d'un secteur économique qui aujourd'hui peut se développer sur l'exploitation des données personnelles ou d'ailleurs même des données publiques, ce qu'on appelle les big data. Est-ce que, alors j'ai deux questions à vous poser. Est-ce que vous pourriez donner un exemple des services que rendent l'exploitation de ces données? En quoi est-ce que c'est devenu un actif économique qui peut favoriser des innovations, des nouveaux services? Et d'autre part, qu'en est-il pour votre institution? C'est-à-dire que, dans le fond, vous jouez quand même un double rôle. Un rôle de régulateur d'un secteur économique en développement et un rôle de protection du citoyen. Pour garantir votre fonction de protection du citoyen, vous êtes une autorité administrative indépendante. C'est, disons, un bon outil pour garantir votre rôle. Est-ce que le fait d'être une autorité administrative indépendante, ça vous donne aussi des atouts par rapport, enfin, en tant que régulateur du secteur économique, ou est-ce que c'est logique que les deux fonctions soient rassemblées dans la même institution?
Isabelle Falque-Pirotta.
Alors, est-ce que les données personnelles et le numérique nous aident et est porteur d'innovation? La réponse est bien sûr que oui. Je crois que toute une série de start-up, d'entreprises, de services ne serait pas possible sans l'aide du numérique. On a parlé récemment des élections françaises. Il est évident que dans ces élections françaises, l'utilisation des données a permis aussi un certain nombre de comportements, un certain nombre, je dirais le porte-à-porte, aussi un renouveau démocratique à certains égards que, je dirais, les outils traditionnels n'auraient pas permis. Regardez LinkedIn. LinkedIn est un fabuleux endroit, base de données, mais c'est une sorte de plateforme de marché finalement de l'emploi extrêmement performant qui est rendu possible grâce à l'utilisation des données. Donc je crois que les bénéfices d'innovation et de création d'un certain nombre de nouvelles initiatives via le numérique est absolument, à mon avis, n'est absolument pas en débat. Et je passe sous silence les aspects médicaux, l'amélioration à travers une justice prédictive qui peut exister, etc. Alors, est-ce que la dualité des fonctions actuelles de la CNIL entre une fonction de protection et une fonction d'accompagnement, est-ce que tout ceci rend le métier du régulateur plus difficile? Je ne crois pas. Je crois que notre métier principal est un métier de régulateur. Un métier de régulateur, c'est de dire je permets à l'ensemble des acteurs, finalement, de s'emparer de ces outils et de développer leur stratégie propre, qu'elle soit publique ou privée, mais je suis le garant des droits individuels et de l'état de droit. Et c'est d'autant plus facile aujourd'hui d'avoir cette posture que l'évolution de la législation tend à supprimer les contrôles a priori pour les remplacer justement par une responsabilisation des acteurs et par exemple à travers un nouveau principe qui est le privacy by design. Le privacy by design, ça consiste à dire, dans le fond, lorsque vous développez une application, un service public ou privé, il faut que vous intégriez dans ce service, le plus en amont possible, la préoccupation, la prise en compte, finalement, de protection des données personnelles. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que, dans le fond, ça permet, me semble-t-il, de construire une innovation qui est beaucoup plus robuste. Elle est robuste parce qu'elle est construite, dans le fond, sur les attentes des personnes. Les personnes veulent bien de l'innovation, ils veulent bien des services, à condition que ces services soient respectueux de leurs données. Donc, lorsque vous dites à un acteur privé ou même à un acteur public, nous allons vous aider, finalement, à élaborer une solution qui intègre du privacy by design, finalement, en tant que régulateur, vous êtes parfaitement dans votre rôle et, dans le même temps, vous protégez les libertés individuelles. Donc, si vous voulez, ce qui est sûr, c'est que, je dirais, c'est une très forte révolution culturelle au sein de la CNIL, cette évolution. Ça, c'est certain. Et ça a nécessité, je dirais, un réajustement de nos équipes, de nos compétences, de notre organisation considérable depuis 4-5 ans.
Sylvie Kaufmann.
Alors, je voudrais revenir un petit peu en arrière. Il y a eu un événement en 2013 qui était symbolisé par un homme, Edward Snowden, qui a joué un rôle, qui a bouleversé un peu tout ce paysage ou la conscience qu'on a du paysage numérique. Et je voudrais vous, donc Edward Snowden, je rappelle brièvement, était cet ancien agent de la CIA qui a fui d'abord en Asie et puis finalement qui est à Moscou depuis et qui a laissé fuir cette mise sur la place publique en fait une masse extraordinaire de données et révélé au monde que les États-Unis se livraient en fait à une surveillance de masse planétaire des données personnelles des populations à peu près du monde entier. Alors, je voudrais vous demander quel est, d'après vous, l'impact qu'a eu, maintenant, avec le recul de presque 4 ans, quel a été l'impact de cet événement à la fois sur les acteurs du monde numérique et sur les mentalités des gens. Est-ce que c'était vraiment un tournant dans nos mentalités et puis, En particulier à l'échelle européenne, puisque vous êtes donc là, vous présidez ce groupe des 29, est-ce que ça jouait un rôle dans cette prise de conscience de la nécessité d'avoir un rôle vraiment à l'échelle européenne face à la puissance américaine? Est-ce que cette prise de conscience peut être différenciée suivant des pays? Je crois qu'en Allemagne, elle a été particulièrement forte. En France, on a tendance à dire que, comme nous-mêmes, nous nous livrons à des activités de surveillance dont on ne sait pas trop quelle est leur étendue, mais on se doute qu'elle est assez puissante aussi. Nous sommes un petit peu moins sensibles. Et puis, dernière question accessoire sur cette dimension européenne. Est-ce que le G29 va devenir, avec le Brexit, un G28? Quel va être comment va se positionner la Grande-Bretagne dans ce groupe?
Isabelle Falque-Pirotin.
Alors, Snowden a été un choc considérable. Et je dirais que Snowden, les révélations de Snowden, ont pour moi marqué, je dirais, la fin de l'innocence numérique. Et le grand public, parce que les experts étaient au courant en réalité, mais le grand public a réalisé que, dans le fond, il était face à une infrastructure informationnelle très complexe, au départ constitué par les grandes entreprises internationales, mais dans laquelle, effectivement, pouvaient plonger des autorités publiques, des services de renseignement. Et qu'il était, pour le coup, très nu par rapport à cette infrastructure informationnelle extrêmement complexe. Alors, ça a eu, effectivement, des conséquences considérables pour les entreprises, parce qu'évidemment, elles ont eu à faire face à une sorte de déficit de loyauté par rapport à leurs propres clients. Et une partie de la stratégie des grands acteurs de l'Internet depuis cette date s'explique par la volonté, finalement, de réinvestir cette relation avec leurs utilisateurs pour leur dire « Mais nous sommes purs. Nous ne sommes pas, nous sommes à votre service. Nous ne sommes pas au service d'autorités publiques. » Pour l'Europe, il est évident que cet événement a été un coup de cymbale dans l'enlisement à l'époque de la négociation sur le règlement, et ça l'a réaccéléré pour donner l'argument politique final et faire en sorte que, in fine, le règlement puisse être conclu. Au motif que, dans le fond, nous avons une géographie des données entre l'Europe et les États-Unis qui est très particulière, puisque nous sommes un gisement de données extrêmement important, avec les millions de consommateurs européens, en plus de très qualifiés, de très haut niveau, etc. Mais toutes ces données étant exportées vers les États-Unis pour être traitées. Donc il est important que le marché européen de la donnée, dans ces conditions, se structure, définisse les règles selon lesquelles les acteurs internationaux, et en particulier américains, peuvent traiter ces données. Donc ça a permis effectivement le resserrement de l'identité européenne et la conclusion du règlement européen. Donc, je dirais que après, les conséquences continuent à se manifester. Par exemple, à travers les décisions de la Cour de justice européenne sur le Shield, dans le fond, si vous voulez, ça a été une prise de conscience, Snowden, par les gens qui n'étaient pas proches nécessairement de ces questions, mais qui tout d'un coup ont réalisé l'ampleur du problème. Et les juges européens, je pense qu'ils ont été fortement influencés par Snowden, et ça a conduit notamment à l'annulation du Safe Harbor. Alors, peut-être juste un mot sur le Safe Harbor, parce que c'est intéressant. C'est donc un accord commercial conclu entre l'Europe et les États-Unis, qui existait depuis plus de 10 ans, qui est brutalement remis en cause par une décision de la Cour de justice européenne, au motif, en réalité, que les données sont exportées et qu'aux États-Unis, elles sont potentiellement accédées par les services de renseignement américains dans des conditions, dans le fond, que nous, on ne connaît pas. Et donc, la Cour suprême européenne annule le Safe Harbor et, à partir de là, renégocie le Shield. Et ce qui est intéressant, c'est que, dans le fond, fait irruption dans un accord commercial cette préoccupation de liberté individuelle à travers l'accès par les services de renseignement américains aux données transférées par les sociétés américaines. Et ça, je crois que c'est dans le fond ça qui est assez nouveau. C'est qu'en fait, les préoccupations commerciales et régaliennes se rencontrent. Et on sent bien, si vous voulez, que dans cette régulation du numérique, à travers ces acteurs, ces accords internationaux, il va falloir avoir une approche globale. C'est bien ça la difficulté de la période actuelle.
Avant que vous ne répondiez à la dernière question de Sylvie Kaufmann sur les conséquences du Brexit, je voudrais revenir sur ce G29 qui m'intrigue, parce que on a dans les campagnes électorales qui sont maintenant derrière nous, beaucoup ou pas assez selon les uns ou les autres parler de l'Europe, et là on a l'impression que ça marche, c'est-à-dire que vous vous mettez d'accord, et non seulement vous vous mettez d'accord, ce que après tout des experts ou des spécialistes peuvent toujours faire, mais ça se traduit à un moment donné par des mesures qui sont reprise par les gouvernements. Comment ça marche, ce G29? Et, pour reprendre la question de Sylvie, qu'est-ce qui se passe maintenant que la Grande-Bretagne fiche le camp?
Alors, je crois surtout que on va, au-delà du G29, à travers le règlement européen, être capable d'inventer une nouvelle gouvernance européenne très innovante. Va succéder au G29 une institution européenne qui va s'appeler l'EDPB. Le G29, aujourd'hui, c'est un groupe d'experts, légalement, ça n'est pas une institution européenne. Demain, c'est-à-dire à partir de mai 2018, l'EDPB est un organisme européen qui va construire une gouvernance qui est assez innovante parce que, dans le fond, elle combine une très forte décentralisation au niveau des autorités nationales qui voient leur statut renforcé. Donc, c'est ces autorités nationales qui sont la première couche de régulation. Ensuite, si elles ont des problèmes d'intérêt commun, elles coopèrent entre elles, donc c'est un peu un niveau intergouvernemental, d'une certaine manière. Et ensuite, on arrive au niveau européen, l'EDPB, qui a une possibilité... EDPB, c'est European Data Protection Board, donc c'est un sigle, je dirais, un peu technocratique, mais ce qui est intéressant, c'est que...
Et très anglais, il faudra trouver l'équivalent très français. Anglais.
Ça s'appelle le CEPD en français, c'est pas plus intelligible. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que cet organisme européen aura effectivement la capacité de co-décider à 28. Donc nous sommes dans une matière où, pour la première fois, il n'y a pas d'équivalent. Pour la première fois, des autorités nationales de régulation, non seulement peuvent travailler ensemble, mais co-décider à 28 ou à 27, on va s'en dire un mot dans un instant. Donc ça, je pense que c'est très intéressant, parce que on a à la fois un modèle qui est distribué au niveau national et qui est intégré plus fortement au niveau européen. Et nous avons beaucoup travaillé à l'élaboration de ce modèle. Et moi, je dois dire, je le trouve très intéressant parce qu'il est vraiment inspiré, dans le fond, de la culture de l'Internet. C'est-à-dire que vous distribuez au maximum au niveau local. Et si c'est véritablement nécessaire, vous construisez de l'intégration européenne, une sorte de fédéralisme européen, mais uniquement pour les sujets véritablement importants. Alors, maintenant, est-ce que la Grande-Bretagne va nous quitter ou pas? Écoutez, pour le moment, notre collègue britannique fait toujours partie du groupe des 29. Ils ont annoncé qu'ils se plieraient, bien sûr, à toutes les préconisations du règlement. Nous allons voir comment se passe la négociation. Il est évident que derrière tout ça, il y a bien sûr des intérêts économiques considérables, parce qu'en réalité, ce qu'il y a derrière, c'est la localisation de toute l'économie numérique européenne. Et c'est pour ça qu'il est très important que l'Europe fasse la preuve, l'Europe des 28, fasse la preuve que les choix régulatoires européens que nous avons faits sont les bons. C'est-à-dire qu'ils permettent à la fois le dynamisme de l'économie numérique, ça tout le monde le veut, mais aussi la sécurité juridique. Parce que quand vous avez potentiellement des sanctions à 4% du chiffre d'affaires mondial, si vous n'avez pas de sécurité juridique, vous êtes quand même, en tant qu'entreprise, dans une situation très délicate. Donc c'est ça, la promesse de l'Europe, c'est de dire, venez chez nous, venez dans un système qui est régulé, c'est-à-dire qu'effectivement, qui vous impose des responsabilités, mais qui, dans le même temps, entre guillemets, vous garantit une sécurité juridique en cas de sanction.
Sylvie Kaufmann, question supplémentaire.
Sur ce EDPB, est-ce qu'il s'agit d'un organe fédéral ou intergouvernemental? Est-ce que c'est par exemple comme l'agence Frontex de garde frontières, qui est vraiment un organisme au-dessus des États avec sa propre, son propre personnel, ou bien est-ce que c'est composé des agences de protection des données nationales qui se mettent ensemble?
Isabelle Falque-Pirantin.
Alors, ce n'est pas une agence. Ils n'ont pas souhaité créer une agence. C'est pour le moment une institution européenne qui va rassembler les autorités nationales qui se mettent ensemble. Mais à la différence, je dirais, du pur intergouvernemental, cette autorité, enfin ce groupe, aura la capacité d'avoir une décision commune qui s'imposera dans les mêmes termes à toutes les autorités nationales.
Michael Avigan.
Oui, j'aimerais revenir, si vous le permettez, à un moment sur le rôle des algorithmes. Vous avez déjà mentionné qu'ils n'avaient pas seulement une utilisation commerciale, mais qu'il y avait aussi un rôle de plus en plus politique. On en a beaucoup parlé aux États-Unis après la campagne électorale de l'utilisation qu'avait fait notamment Donald Trump des algorithmes pour en quelque sorte s'attacher des électorats qui n'étaient pas forcément prêts à aller déjà voter, à participer démocratiquement. Et vous avez dit là en passant que justement le renouveau démocratique en France était aussi facilité par l'Internet, l'utilisation de ces données numériques. Et comme en Allemagne, nous sommes devant une campagne électorale, on s'interroge beaucoup, mais plutôt de façon craintive, sur le rôle. Est-ce qu'une manipulation est possible aussi? Comment, justement, dans des groupes très forts consommateurs d'Internet, les jeunes électeurs, ces algorithmes peuvent être aussi manipulés? Ça m'intéresserait de savoir ce que vous en pensez.
Comme nous avons quelques auditeurs qui ont plus que 25 ans, je crois que ça serait bien que vous définissiez les algorithmes, Isabelle Falque-Pirantin.
Alors, les algorithmes, votre question n'est pas la plus simple. Les algorithmes, ce sont des programmes qui, à travers une série d'instructions, permettent de se repérer dans un gisement de données extrêmement important et d'assister à l'analyse de ces bases de données et, le cas échéant, à faciliter les choix liés à ces bases de données. Donc, les algorithmes servent pour travailler des bases de données médicales. Le séquençage du génome, d'une certaine manière, c'est un algorithme. Permettent d'analyser des bases de jurisprudence, permettent d'analyser des risques de sécurité d'une entreprise à travers toutes les données qui arrivent dans une entreprise. Donc les algorithmes dans le numérique servent à tout. Et je crois que sans les algorithmes, nous ne pourrions pas digérer cette espèce de masse d'informations qui arrive aujourd'hui avec le numérique. Alors, est-ce qu'il y a une crainte à avoir par rapport à ces algorithmes? Je crois qu'il est très important de savoir comment ces outils marchent. Et nous avons fait à la CNIL un sondage pour essayer de tester un petit peu la manière dont nos concitoyens comprenaient ces outils. C'est intéressant parce que on s'aperçoit qu'en fait, ces concitoyens ont identifié l'objet, c'est-à-dire que la plupart connaissent le mot, connaissent intuitivement leur existence, mais dans le fond, pour eux, c'est des boîtes noires. Donc je crois qu'il est très important qu'on puisse lever effectivement cette espèce de fantasme et qui, dans certains cas, par ailleurs, est une réalité, et qu'on explique à quoi ça sert, comment ça marche. En matière politique, il est évident que celui qui maîtrise les algorithmes a un pouvoir d'influence qui est réel. Toutes les analyses sur la manière dont Donald Trump est arrivé au pouvoir, c'est pas un secret que je dis là, sont des analyses qui montrent bien que ses équipes et un certain nombre de gens qui l'entouraient avaient parfaitement compris la manière dont l'information circule, comment elle devient virale, quels sont les leviers sur lesquels il faut appuyer pour manipuler, orienter l'opinion. Ça dépend des points de vue. Donc, je crois qu'à l'ère digitale, celui qui maîtrise la manière dont l'information est structurée a le pouvoir. Ça, c'est vrai. Donc, à partir de là, je crois que la vraie réponse, et moi, je suis absolument convaincue de ça, la vraie réponse, c'est l'éducation. C'est l'éducation qui doit permettre, qui doit donner, je dirais, à nos concitoyens la capacité de comprendre ce qui se passe. Or, en matière d'éducation, force est bien de reconnaître que nous sommes très en retard. Nous sommes très en retard sur cette éducation au numérique. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de former à l'usage. La plupart des jeunes savent très bien se servir du numérique. Il s'agit de leur donner le paysage global en leur disant...
Vous dites nous sommes très en retard par rapport à l'importance de la chose ou très en retard par rapport à d'autres pays?
Alors, par rapport à l'importance de la chose, c'est sûr. Par rapport à d'autres pays, je pense que les Britanniques... ont développé une éducation au numérique il y a déjà plus de temps que nous. Je dirais la plupart des pays tâtonnent. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en France, par rapport à l'importance de la chose, je pense que nous n'avons pas la réponse au bon niveau. Nous n'avons pas la possibilité de donner à n'importe quel collégien une culture générale minimum pour comprendre cet univers. Et quand je dis culture générale minimum, c'est un peu d'économie, un peu de technique, un peu de codage, un peu de sociétal, vous voyez, un peu pour avoir cette culture générale de l'honnête homme numérique. Et à la CNIL, ça fait quelque temps que nous travaillons sur ce sujet. Nous avons d'ailleurs fait une adresse aux candidats sur cette question en leur disant « Mettez en place une éducation populaire numérique, parce que vraiment, il est temps. » Parce qu'effectivement, je crois que vous avez raison, les outils numériques sont des outils extrêmement puissants. Ils sont extrêmement puissants. Et ceci au bénéfice de chacun d'entre nous. Tout le monde n'est pas non plus animé des meilleures intentions. Donc il faut nécessairement permettre à chaque individu de comprendre ce qui se passe.
Marc-Olivier Padis.
Oui, je voudrais poursuivre justement sur cette question de l'éducation au numérique en vous posant la question, mais quel est l'acteur qui peut favoriser cette éducation au numérique? Parce que les standards juridiques que vous proposez, moi je suis plutôt favorable à une démarche effectivement d'autorégulation, de responsabilisation des acteurs et disons pour ce qui concerne les particuliers, l'autodétermination informationnelle. Mais cette expression est extraordinairement exigeante. En ce qui me concerne, et je me considère comme un acteur à peu près éclairé sur le sujet, je vois bien que je signe les conditions d'utilisation des réseaux sociaux gratuits sans jamais les lire. J'ai des possibilités de configurer, bien sûr, mon usage des outils, mais je me repose souvent sur la configuration standard, sur laquelle parce que j'ai pas la patience d'aller fouiller dans mes préférences, etc. Donc c'est quand même un standard extraordinairement exigeant. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour, disons, dynamiser un débat public là-dessus? Et qui est responsable, enfin, qui peut promouvoir cette éducation au numérique?
Isabelle Falque-Pirantin.
Vous avez raison, on ne veut pas que la régulation passe exclusivement par l'utilisateur final qui aurait toute la charge d'être vigilant sur tous les sujets. Je crois que ce ne serait pas réaliste et le fait que vous cochiez toutes les conditions générales... tout le monde le fait. Donc il y a deux réponses à ça. La première, c'est effectivement le rôle de l'État, je crois, au niveau de l'éducation nationale, effectivement, de délivrer, enfin de proposer cette éducation numérique pour tous. Il y a eu un événement assez important dans la conférence mondiale des autorités de protection qui s'est passée l'année dernière. L'année dernière, l'ensemble de ces autorités mondiales à Marrakech a adopté un référentiel d'éducation numérique commun, je dirais, au niveau mondial. Et c'est un référentiel de compétences extrêmement concret, très simple, qui a été adopté par des autorités aussi diverses que Maurice, les Européens, des Néo-Zélandais, etc. Et toutes ces autorités ont dit, nous allons porter ce référentiel auprès de nos ministères de l'Éducation nationale pour qu'il soit effectivement déployé au sein des ministères de l'Éducation nationale. Donc je crois que ça, c'est la première chose à faire, c'est qu'il y ait un enseignement de base sur cette éducation populaire au numérique dans les collèges et les lycées. L'autre réponse, c'est une réponse d'encadrement des pratiques des acteurs. Parce qu'il y a le privacy by design, mais il y a aussi le privacy by default. C'est-à-dire, en fait, la configuration de base offerte par les acteurs numériques doit être une configuration qui respecte la protection des données personnelles. Et les autorités nationales de protection des données sont là pour faire respecter ce principe. Alors, évidemment, ce n'est pas simple. Je ne vous cacherai pas que, je dirais, on ne claque pas des mains en disant, ou du doigt en disant, on va immédiatement avoir des résultats satisfaisants avec les acteurs. Mais je constate quand même que depuis 4 ans que nous travaillons de façon concertée au niveau européen, eh bien, vis-à-vis de ces acteurs internationaux, qu'ils soient, je dirais, américains ou autres, nous avons une capacité de négociation qui s'est considérablement renforcée. Et les pratiques de ces acteurs, lorsque vous les constatez, les paramètres de confidentialité, les tableaux de bord offerts par Facebook ou par Google, toutes ces pratiques n'existaient pas il y a encore 4 ans. Donc si vous voulez, je pense que nous avons une courbe d'apprentissage et effectivement, le rôle des autorités de protection des données, c'est aussi d'imposer dans un certain nombre de situations des pratiques au marché qui sont différentes de ce que le marché avait originalement en tête, clairement.
Est-ce que c'est arrivé ?
Oui, c'est arrivé. C'est arrivé, bien sûr, puisque, par exemple, sur les cookies, qui sont ces espèces de petits fichiers qui permettent de tracer la navigation sur Internet et d'avoir un ciblage publicitaire qui soit extrêmement fin, sur les cookies, nous avons imposé, à la suite de la législation, parce que c'est une décision qui a été d'abord prise par le Parlement européen, mais en tout cas, les autorités européennes de protection ont imposé le fait qu'il y avait une bannière d'information des utilisateurs, qu'on ne pouvait pas mettre en place un cookie dès le premier contact avec le site web de l'espace publicitaire concerné. Donc, si vous voulez, le marché peut se structurer autour de demandes du législateur et des autorités de protection. Et encore une fois, il ne s'agit pas de dire on va empêcher le développement du marché, il s'agit de dire nous voulons que les pratiques économiques soient robustes, et elles le sont si effectivement elles respectent les droits des personnes.
Michaela Wiegel.
Oui, j'ai une question après avoir constaté avec vraiment grand plaisir que l'Union européenne et la coopération européenne jouent un très très grand rôle pour votre institution. Une question plus franco-française. Nous sommes toujours sous l'état d'urgence et je voulais savoir en quoi la lutte contre le terrorisme crée des conflits avec vos fonctions. Est-ce que les pouvoirs agrandis pour la poursuite des risques terroristes engendre des complications pour votre travail.
Heureusement que Michaela est là pour poser des questions franco-françaises, sinon comment ferait-on ? Isabelle Falque-Pirotte.
Il est certain que le climat actuel de lutte contre le terrorisme, les réalités actuelles de lutte contre le terrorisme font que cet enjeu est un enjeu qui peut écraser tous les autres. Et qui s'opposerait à la mise en place d'outils extrêmement performants pour lutter contre le terrorisme. Donc, le positionnement des autorités de protection des données est un positionnement qui, de ce fait, est effectivement délicat. Mais nous, ce que nous disons, c'est que le terrorisme, la lutte contre les terrorismes, doit se développer dans le cadre d'un état de droit. Et que cet état de droit consiste à faire progresser en même temps les moyens accrus de lutte contre le terrorisme et les garanties accrues. Parce que si ça n'était pas le cas, on finirait tous par avoir un drone en face de nos fenêtres pour en permanence surveiller ce que nous faisons au cas où potentiellement nous serions des terroristes. Donc on sent bien que il est nécessaire de trouver un équilibre. Donc la position que la CNIL a prise, notamment à l'occasion du débat sur la loi renseignement, c'est-à-dire nous allons accompagner des moyens supplémentaires à destination des services de renseignement, mais dans le même temps, vous devez nous offrir des garanties supplémentaires. Et c'est bien ce qui s'est passé donc, dans ce dialogue que nous avons eu, puisque nous avons, je crois, contribué largement à resserrer les mailles du filet, à faire en sorte que les boîtes noires, les IMSI catchers, enfin toutes ces nouvelles techniques de collecte de données au bénéfice des services, eh bien, soient strictement encadrées. Et je crois qu'en tant qu'individu, on y a tous intérêt. Voyez. Donc, c'est comme ça qu'on dialogue effectivement avec nos services de renseignement. C'est sûr que c'est difficile. C'est sûr que c'est difficile, mais une dernière remarque peut-être par rapport à cela. Moi, je suis quand même assez prudente par rapport à l'outil technique qui résoudrait tous les problèmes. Vous voyez, l'outil technique qui, à travers le PNR européen, par exemple, toutes les données passagers, des passagers aériens européens, ou bien des gigantesques bases de données dont sortiraient, comme par miracle, les terroristes. Je crois qu'il est très difficile, en réalité, d'avoir des bases de données à jour. C'est bien la difficulté opérationnelle que nous avons. Et donc, je crois qu'il ne faut pas non plus, même si elles sont très utiles, même si ces outils peuvent être utiles, il ne faut pas non plus surestimer le bénéfice immédiat d'utilisation des 10 outils.
Ça, je crois que c'est un point extrêmement important. Un certain nombre d'événements tragiques, je pense notamment à l'attentat commis à Nice l'année dernière, le 14 juillet, ont montré qu'on s'était reposé de manière tout à fait imprudente sur la technique, en l'occurrence les techniques des caméras de surveillance. C'est très tentant, évidemment, parce que ça permet de se décharger sur cette magie formidable de la technique qui va si vite, qui progresse si rapidement, etc. Est-ce que dans vos conversations et dans vos contacts avec les services chargés de ces questions de sécurité, est-ce que vous avez l'impression que cette espèce de, comment dire, de crédulité est bien contenue ou au contraire qu'elle est un danger en progression?
Je crois que cette espèce de tendance au solutionnisme technologique, d'une certaine manière, c'est quand même une tendance qui est très présente au sein des services de renseignement, mais comme, je dirais, de façon générale aussi au sein des entreprises. La vérité va sortir du traitement de la donnée. Ça n'est pas toujours le cas. Pour moi, ce sont, encore une fois, une assistance à la prise de décision, à l'identification du problème. On voit que ces bases de données sont difficiles à maintenir en termes de qualité de l'information. On voit aussi, et je dirais que c'est une des difficultés actuelles, notamment dans le secteur public, c'est que, en fait, le secteur public s'est beaucoup équipé sur le plan de ses outils techniques comme un millefeuille. C'est-à-dire avec des outils qui se sont déployés sujet par sujet. Alors, le problème de la douane, le problème du terrorisme, le problème des visas, etc. Et la grande difficulté, c'est que ces bases de données ne communiquent pas ou peu techniquement. Or, effectivement, aujourd'hui, il faudrait que ça puisse communiquer si on voulait être véritablement efficace. Donc, en fait, si vous voulez, encore une fois, je crois qu'il faut être assez prudent par rapport à l'utilisation de ces outils. Ils sont utiles, certainement, mais je ne crois pas qu'ils puissent produire, en tout cas, de façon automatique, les résultats.
Sylvie Kaufmann.
Oui, alors vous disiez tout à l'heure que tout le monde n'était pas animé des meilleures intentions dans le monde numérique, et vous venez de le démontrer en parlant du terrorisme et de la lutte contre le terrorisme. Il y a un autre domaine qu'on a découvert depuis, enfin découvert, qui nous a été révélé depuis un an, c'est celui des interférences dans les campagnes électorales par le piratage de données avec des intentions malignes. On a vu ça aux États-Unis. On semble l'avoir vu en France aussi. Il y a eu une grande inquiétude et des mesures qui ont été manifestées, des mesures qui ont été prises, notamment avec la création, je crois, d'institutions dédiées en Allemagne, en Grande-Bretagne. Est-ce que vous pensez que nous, en France, nous sommes suffisamment préparés à ce risque, qui est plus qu'un risque, qui est maintenant une réalité? Est-ce que nous avons les outils qu'il faut et la mentalité qu'il faut?
Isabelle Falque-Pirotin.
Je crois qu'avec le numérique, on apprend, si on ne le savait pas, la vulnérabilité. Nous sommes tous interconnectés, les entreprises, les acteurs publics, et de ce fait, nous sommes potentiellement vulnérables à des attaques. Et je dirais que l'année passée a été une année particulièrement active sur le plan des attaques à destination des acteurs publics et des acteurs privés. Vous avez des hôpitaux, par exemple, comme aux États-Unis, qui se sont fait hacker des données de patients, 60 000 données de patients avec des pathologies très spécifiques pour une somme d'argent. Vous avez l'administration américaine qui a vu plusieurs millions des personnes qui faisaient l'objet d'une habilitation secret défense particulière être hackées. Et le risque, c'est aussi, que les fuites soient mises en commun, voyez, et qu'on fasse du chantage aussi après sur les dites personnes concernées. Bref, je crois vraiment qu'on est dans une phase où les questions de sécurité informatique sont des questions qui sont absolument en haut de l'agenda des uns et des autres. Nous, à la CNIL, nous le voyons de plus en plus. À travers, par exemple, les missions de contrôle que nous menons environ 500 missions de contrôle par an. Sur ces missions de contrôle, à peu près 90% de ces missions donnent lieu à des préconisations en matière de sécurité. Parce que dans le fond, la plupart des acteurs, je dirais, n'ont pas les outils, ni même la culture de sécurité nécessaire pour faire face à la nouvelle situation. La nouvelle situation, c'est que dans le fond, tout peut être un maillon faible en termes de vulnérabilité. Et que le maillon, on n'attaque plus des grands centres de données, ça on peut encore le faire, mais le risque c'est plutôt de rentrer par une petite porte dérobée extrêmement banale, extrêmement anodine, et à partir de là, d'investir un système d'information et le cas échéant, d'y faire son nid et des choses négatives. Donc, n'importe quel acteur d'une organisation est potentiellement une cible. Donc, il est très important qu'il y ait une sorte d'hygiène informatique qui se mette en place, une culture de base au sein des acteurs publics et des acteurs privés. Alors, il y a un vrai retard au sein des entreprises. Les pouvoirs publics français ont pris cette question à bras-le-corps à travers la constitution et le renforcement de l'ANSSI, qui est l'Agence nationale sur la sécurité des systèmes d'information, qui a vu son rôle, ses ressources plus que doublées dans la période récente. Donc je crois qu'on a bien identifié le problème, mais pour avoir participé encore hier à Madrid à une réunion, une rencontre de tous ces professionnels de la sécurité, je vous avoue que moi je rentre avec une certaine... en étant désemparé, d'une certaine manière, parce que, ils ne savent pas encore exactement comment traiter le problème. Vous voyez, parce qu'il y a une telle masse d'informations qui peut le cas échéant, être utilisée et permettre de rentrer dans un système, qu'effectivement, la situation est vraiment difficile. Donc, là aussi, nous avons une courbe d'apprentissage. Il faut aussi penser que, quand même, la plupart des gens n'utilisent pas les failles du système. Vous voyez, il ne faut pas avoir un présupposé de défiance vis-à-vis de l'ensemble de la population, mais je pense en tout cas que la situation est compliquée, oui.
Est-ce qu'il y a techniquement, parce que ça a l'air d'être la question inverse de celle que je vous posais tout à l'heure, en soulignant la responsabilité des hommes et des décisions politiques, des décisions humaines, et la nécessité de ne pas se reposer sur la technique, mais est-ce qu'il y a un progrès technique quant à la capacité de contrarier ces usages malveillants?
Bien sûr. En réalité, je pense, et c'était exprimé de façon assez explicite à Madrid, c'est que c'est aussi la technique qui va permettre probablement de trouver des solutions, et notamment l'intelligence artificielle qui permet finalement de segmenter les risques et de se dire on va se concentrer sur tel type de données, tel type de risque, pour essayer, vous voyez, de faire une allocation de ressources qui soit réaliste. Parce qu'on ne peut pas avoir un système qui soit à 100% imperméable sur tous les sujets. Ça n'est pas possible. Personne n'aurait les ressources pour ça. Donc, les algorithmes, l'intelligence artificielle, permet certainement d'identifier, de prioriser des risques. Donc ça, je crois que les entreprises et le marché est en train de réfléchir à ça. Ensuite, je dirais de façon peut-être plus anecdotique, vous avez un certain nombre de parades individuelles qui commencent à se développer. Vous avez des parades, par exemple, qui permettent de créer une sorte de cage de Faraday autour de votre téléphone portable ou autour de votre carte bancaire pour être sûr que les données de l'appareil ou de la carte bancaire ne soient pas piratées par d'autres. Vous voyez, on voit apparaître ce type d'objet. Donc on sent bien que cette question de la vulnérabilité des systèmes et donc de la vulnérabilité des individus commence à être identifiée par les grosses organisations, par les PME aussi et par les individus eux-mêmes, et qu'il y a des stratégies, je dirais, de contournement, de résistance dans le fond, qui commencent à se mettre en place.
Et vous l'avez dit, un intérêt du marché.
Bien sûr. Parce que on a un certain nombre d'entreprises de sécurité informatique qui commencent à développer des systèmes, qui ont des compétences, qui sont des compétences très pointues, et qu'il faut utiliser. Bien sûr qu'il faut les utiliser. Il ne s'agit pas de dire c'est les pouvoirs publics tout seuls qui le feront. Je crois que là aussi, c'est un univers qui n'existe plus. Les pouvoirs publics doivent développer leur capacité de sécurité, bien sûr, doivent développer leur capacité de déchiffrement. Ça, c'est très important. Mais en même temps, ils doivent pouvoir aussi s'appuyer sur des technologies qui ont été développées par les acteurs privés.
Isabelle Kefalk-Pirotin, je vous remercie. Nous avons, avec vous, peut-être eu moins peur. Je ne sais pas, vous trouviez tout à l'heure que mon introduction était un peu effrayante, mais il me semble que dans vos propos, il y a aussi de quoi être effrayé et assuré. Merci d'avoir été notre invité. Je donne rendez-vous à nos auditeurs pour une prochaine émission thématique, donc dimanche prochain, à la même heure, sur cette même chaîne. C'était L'Esprit Public, une émission de Philippe Meyer réalisée par Luc-Jean Reynaud, préparée avec Augustin Bernard Boudex et Mathilde Cadreau, avec aujourd'hui à la technique Amandine Greveuse. Merci donc de nous retrouver la semaine prochaine à la même heure sur cette même chaîne pour une nouvelle émission thématique de L'Esprit Public.